Merci Nathalie Loiseau. Pour vos propos liminaires, sans plus attendre, je vais donner la parole au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente, David, Nathalie, chers amis du Parlement européen. C'est un véritable plaisir pour moi que de vous voir encore à nouveau et de communiquer ici avec vous au Parlement européen, car j'apprécie réellement l'expression de cette coopération entre l'UE et l'OTAN, celle qui se traduit par une rencontre. Renforcer la coopération entre l'OTAN et l'UE a toujours été une de mes priorités depuis que j'ai débuté mon mandat de secrétaire général de l'OTAN en 2014. Je crois en cette coopération. En effet, nous partageons les mêmes valeurs. Nous partageons des défis communs. Nous sommes deux organisations distinctes, mais nous partageons énormément de choses. 600 millions d'Européens vivent dans un pays de l'OTAN. Lorsque la Suède rejoint l'OTAN, ce sera 96% des citoyens de l'UE qui vivront dans un État membre de l'OTAN. Donc oui, nous sommes deux institutions distinctes, mais nous avons beaucoup en commun. Aussi est-il bon de constater qu'au fil des années, nous avons pu renforcer cette coopération entre nos deux institutions dans l'espace, dans le cyber, sur les infrastructures critiques, sur la mobilité militaire, et nous collaborons étroitement également dans les Balkans occidentaux, au Kosovo, et nous tentons de traiter la migration irrégulière dans le GNC et dans d'autres secteurs. Un peu plus tôt cette année, j'ai signé la troisième déclaration conjointe avec les deux présidents de l'UE, Madame von der Leyen et Monsieur Michel. Tous deux ont participé au sommet à Vilnius. Et moi, au mois de juin, j'ai également rencontré les chefs de file de l'UE au Conseil européen. Donc nous nous rencontrons dans différents forums, nous collaborons et nous réfléchissons ensemble aux défis et aux besoins qui sont les nôtres. Donc, je veux saluer le soutien que vous apportez à ces efforts, vous, parlementaires européens, le soutien que vous apportez à cette collaboration entre l'UE et l'OTAN. Naturellement, nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais nous pouvons nous montrer fiers des progrès que nous avons accomplis pour ce qui est du lien forgé entre nos deux institutions. Cette coopération a toujours été cruciale, mais la guerre en Ukraine l'a rendue d'autant plus importante. Cela va sans dire, il s'agit d'une des guerres les plus brutales que nous ayons jamais pu voir en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il est donc d'autant plus important que nous nous tenions les uns aux côtés des autres. Vladimir Poutine a commis deux erreurs stratégiques considérables lorsqu'il a envahi l'Ukraine l'année passée. La première erreur stratégique, c'est le fait qu'il a sous-estimé l'Ukraine, le courage, la volonté et la témérité des Ukrainiens et de leurs forces armées. Et la deuxième erreur qu'il a commise, c'est de nous sous-estimer, de sous-estimer notre engagement à soutenir l'Ukraine avec des sanctions économiques, avec du soutien politique, mais également avec un soutien militaire. C'est le plus important. C'est un soutien militaire sans précédent de la part des membres de l'UE, des membres de l'OTAN. C'est un soutien qui dépasse les attentes de tous. Il y a des systèmes d'artillerie avancés, il y a des missiles de croisière longue distance. Il y a des systèmes de défense aérienne avancés, avec beaucoup de munitions également qui sont livrées et des formations qui sont dispensées par des États membres de l'OTAN. Désormais, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont annoncé qu'ils étaient prêts à livrer des avions de combat F-16. D'autres alliés sont prêts à former des pilotes et des techniciens ukrainiens afin qu'ils puissent utiliser ces avions de combat. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine. Mais il faut également prendre la mesure de ce que nous avons accompli. Il faut reconnaître que ces efforts ont été considérables. Ils ont également été soutenus par le Parlement européen, par les alliés de l'OTAN et par nos institutions. Il faut reconnaître ces efforts, car ce sont des efforts qui doivent se poursuivre. Notre soutien a permis aux Ukrainiens de lancer une contre-offensive. Les Ukrainiens, petit à petit, gagnent du terrain. Cela montre à quel point notre soutien est déterminant et cela doit renforcer notre détermination en matière de fourniture de ce soutien. Les combats sont rudes, mais les Ukrainiens ont réussi à percer la ligne défensive russe et ils vont de l'avant. C'est un message très clair qui a été envoyé lors du sommet de Vilnius. Il faut continuer à soutenir l'Ukraine. C'était le message envoyé également par l'Union européenne à plusieurs reprises. Et je pense que les évolutions récentes montrent l'importance de notre soutien et de l'importance de le faire durer. Donc, au sommet de l'OTAN, évidemment, nous avons insisté sur le soutien à apporter à l'Ukraine. Nous avons également parlé de la potentielle adhésion de l'Ukraine à l'UE et du chemin qui mène à cette adhésion. Donc, je sais que l'UE a accordé le statut de candidat à l'Ukraine. Au sommet de Vilnius, nous avons pris des décisions cruciales. Nous avons répété que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, mais nous avons ajouté trois éléments qui rapprochent le pays de l'adhésion. Dans un premier temps, il faut un paquet considérable et du financement considérable pour garantir une interopérabilité complète entre les forces armées ukrainiennes et celles de l'OTAN. L'interopérabilité, en des termes pratiques, c'est une façon de rapprocher l'Ukraine de l'OTAN. Deuxième point. Nous voulons renforcer la coopération institutionnelle politique. Nous avons établi le Conseil OTAN-Ukraine. Nous nous réunissons en tant qu'égaux autour de la table. 31 alliés, bientôt 32, avec l'Ukraine, sur un pied d'égalité. Ce Conseil peut prendre décision, peut se réunir en de brefs délais, peut lutter contre des crises, notamment lors de la suspension de l'accord céréalier. L'idée, c'est que ce conseil devienne un outil pratique pour renforcer les liens qui unissent l'OTAN et l'Ukraine. Le troisième point qui a émergé du sommet de Vilnius, c'est la suppression du plan d'action qui est nécessaire pour devenir membre. Car auparavant, il fallait accorder un plan d'action, décider d'un plan d'action, puis on pouvait adhérer à l'OTAN. Désormais, nous avons décidé qu'il n'y avait pas besoin de cette étape pour rapprocher l'Ukraine de l'OTAN. Donc nous avons modifié les clauses. L'adhésion est un processus qui se fait en une seule étape au lieu de deux. Donc il y a l'interopérabilité, le Conseil OTAN-Ukraine et l'allègement du processus d'adhésion. Cela montre que l'Ukraine n'a jamais été aussi proche d'une adhésion. Alors je veux conclure en disant que cela est le reflet de la réalité politique. Lorsque des États-nations souffrent, ils peuvent prendre eux-mêmes leurs décisions et l'Ukraine peut choisir elle-même sa voie. La Russie ne pourra pas opposer son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce sont les alliés de l'OTAN et l'Ukraine qui décideront de ce fait. Puis il s'agissait également de renforcer notre dissuasion et notre défense lors de ce sommet. Alors, l'OTAN a deux tâches pour cette guerre. Il s'agit de soutenir les forces armées ukrainiennes. Et la deuxième tâche, c'est de prévenir une escalade. Aussi avons-nous renforcé notre présence sur le flanc est de l'Alliance pour envoyer un message très clair à la Russie. Pour bien insister sur le fait que l'OTAN défendra chaque centimètre de son territoire. Lors du sommet de Vilnius, nous avons adopté de nouveaux plans pour la défense de l'Alliance dans son intégralité. Nous avons également décidé d'établir des troupes à haut état de préparation. Et nous voulions renforcer également nos capacités navales et aériennes, avec des renforcements rapides si nécessaire. L'objectif de tout cela, c'est de prévenir la guerre. C'est de faire en sorte que l'OTAN demeure l'alliance qui a connu le plus de succès dans l'histoire. S'il y a une guerre par entière qui se déroule en Europe, il faut d'autant plus avoir une bonne dissuasion et une bonne défense. Et ce qui nous permettra de garantir la paix pour les alliés de l'OTAN, car il n'y a pas de place pour de mauvais calculs.
Troisième chose, les alliés de l'OTAN ont démontré qu'ils tiennent leurs promesses qui ont été prises en 2014, car je vous rappelle que la guerre a commencé en 2014. L'invasion à grande échelle a commencé, elle, l'année dernière, mais la guerre en tant que telle, elle a commencé avec l'annexion illégale de la Crimée lorsque la Russie a fait irruption dans le Donbass en 2014. Cela a donné lieu à la plus grande adaptation de l'Alliance au cours de ces dernières décennies, et il faut donc investir plus dans la défense. Je vous l'ai dit précédemment, je sais qu'il est difficile d'allouer plus de fonds à la défense, car la plupart des responsables politiques veulent dépenser pour la santé, l'infrastructure, l'éducation, plutôt que pour la défense. Mais malheureusement, parfois, il faut consentir à ces investissements lorsque les tensions sont vives. C'est là qu'il faut permettre ces investissements, et nous avons permis une augmentation de plus de 8% en termes réels. C'est l'une des plus grandes augmentations de la dépense jamais consentie. Et la plupart des alliés européens prennent cela très au sérieux, et cela permet notamment de permettre la production de munitions. C'est particulièrement important. Je salue les efforts, les décisions prises par les pays européens qui vont de concert avec ce qui se fait au niveau de l'OTAN. Au sein de l'OTAN, nous avons différents arrangements pour différents plans d'approvisionnement pour les munitions. Nous avons l'agence de l'OTAN pour l'approvisionnement, et je salue les efforts consentis afin d'augmenter le rythme de la production. Et c'est un effort qui est consenti dans toute l'Alliance, dans tout l'OTAN, pays européen ou pas. Et cela nous permet donc de produire de plus en plus de munitions. Et bien sûr, pour cela, il faut d'abord consentir à des dépenses plus importantes en matière de défense. Au sujet de la Suède, c'est un fait historique. La Finlande est à présent membre de l'Alliance. Et on doit se souvenir du contexte qui sous-tend tout cela. Le président Poutine a, en 2021, envoyer un projet de traité à l'OTAN pour proposer qu'il n'y ait plus d'adhésion d'autres pays à l'OTAN. Et c'était une condition sine qua non afin de ne pas envahir l'Ukraine. Bien sûr, nous avons refusé cette signature. C'est même le contraire qui s'est produit. Il voulait que l'on s'engage à ne jamais élargir l'OTAN, et il voulait que l'infrastructure de la défense change dans les pays de l'OTAN, afin donc que l'infrastructure de l'Alliance disparaisse de certains pays d'Europe centrale. Ainsi, cela aurait créé une OTAN à deux vitesses. C'est une idée que nous avons fermement rejetée. Et donc, il a choisi la guerre pour éviter que l'OTAN ne se rapproche trop de ses frontières. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Il va avoir plus d'OTAN dans la partie orientale de l'Alliance. Et maintenant, la Finlande a d'ores et déjà rejoint l'Alliance. C'est acté. La Suède ne va pas tarder à nous rejoindre également, car au cours du sommet de Vilnius, nous nous sommes mis d'accord sur une déclaration, et cela a été dit clairement dans le cadre de cette déclaration, la Suède va redoubler d'efforts à la suite des engagements pris à Madrid dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit également de remédier aux questions qui ont trait à l'exportation de matériel militaire, et la Turquie s'est engagée à ratifier dès que possible cette adhésion de la Suède. Donc j'espère que lorsque le Parlement turc reprendra ses travaux cet automne, cette ratification se produira dans les plus brefs délais et nous serons ainsi 32 alliés. La Finlande et la Suède seront donc toutes deux membres. C'est une bonne chose pour les pays du Nord, c'est une bonne chose pour la Finlande et la Suède, c'est une bonne chose pour l'OTAN, et cela démontre que lorsque le président Poutine a choisi d'envahir un pays européen pour empêcher qu'il y ait trop d'OTAN, eh bien, il a eu l'exact opposé. Je crois avoir épuisé les 10 minutes qui m'ont été allouées. Donc, je vais m'en tenir là pour libérer du temps pour les questions-réponses. Et je me réjouis à aider d'entendre vos commentaires. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général de l'OTAN, pour votre propos liminaire. Cela va nous permettre de nourrir le débat pour la session questions-réponses. Je cède la parole à Monsieur Tom van den Kelare, chef de délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cet échange de vues traditionnel. Tout à fait le bienvenu, Monsieur Stoltenberg. Je souhaite vous féliciter et je souhaite rendre hommage à votre dévouement, votre engagement qui vise à garantir la sécurité et la sûreté des Européens. Nous avons eu des preuves de l'unité et de la détermination de l'Alliance dans la réponse qui a été apportée à l'invasion russe de l'Ukraine. Je crois qu'à Vilnius, l'Alliance a trouvé les bonnes réponses aux défis qui nous attendent et qui se présentent à nous. Il est évident que l'OTAN demeure essentielle pour la sécurité du continent, pour les citoyens européens également. Et c'est pour cela que je pense qu'on doit continuer à se concentrer sur le partenariat très fort qui unit l'OTAN et l'Union. J'aurais trois questions brèves à vous adresser, si vous me le permettez. Au-delà de la nécessité évidente qu'il y a de continuer à travailler ensemble pour soutenir l'Ukraine, selon vous, quelles seraient les priorités les plus urgentes de notre travail en coopération après la signature de la troisième déclaration conjointe? Ensuite, il y a la question de l'approvisionnement, l'EDERPA, et nous avons également l'ESAP et le plan d'action de l'OTAN. Dans le cadre de ces efforts, quel regard portez-vous sur la fourniture d'une assistance à l'Ukraine, notamment en termes de coordination entre ces différents instruments? Et autre question que je vous ai déjà adressée, en ce qui concerne la protection de la démocratie, comment déterminez-vous la faisabilité qu'il y aurait à mettre en place un centre pour la résilience démocratique, une institution qui devrait voir le jour, j'espère, sous votre mandat? Nous appelons de nos voeux l'établissement d'une telle institution. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup, Tom. Nathalie Loiseau a à présent la parole. Elle va présider la seconde partie de la réunion. Merci beaucoup, David. Je vais céder la parole au coordinateur de la FET et de la CDE, tout d'abord, pour 2 minutes chacun. Tout d'abord, Mireille Garle pour le PPE.
Thank you very much, Secretary.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, pour vos lumières. Merci également d'être très souvent présent au sein de nos commissions. C'est très agréable. Et le rapporteur spécial pour l'Ukraine et moi-même vous remercions au titre de vos efforts qui ont été déployés sans relâche et qui visent à soutenir, renforcer les capacités de l'Ukraine et afin de motiver nos États membres à tenir leurs promesses et à joindre le geste à la parole, puisqu'il faut en faire plus. Comme on a évoqué les AP et le DARPA, ce sont des actes législatifs en cours. Cela devrait donner lieu à une meilleure normalisation afin de nous mettre d'accord sur un acte d'approvisionnement. Pensez-vous qu'au niveau législatif, on puisse faire mieux pour œuvrer pour cette cause commune? Pensez-vous qu'il y a des points qui devraient retenir notre attention? C'est ma première question. Deuxième question, qui est différente en ce qui concerne le corridor de céréales. Ukraine l'a déclaré de façon unilatérale, la mer Noire n'est pas un lieu exclusif, l'apanage le précaré presque de la Russie. C'est un lieu international, mais comment s'assurer que l'Ukraine puisse effectivement avoir accès à cet espace en ce qui concerne les eaux roumaines ou les eaux internationales, plus au sud, bien sûr. Oui, effectivement, vous êtes impliqué ici. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a les eaux internationales, les eaux roumaines et les eaux bulgares, et dans ces eaux, bien sûr, on peut être présent. Mais comment s'assurer que ce corridor de céréales voit effectivement le jour? Et un appel que je vous lance, il faut vraiment mettre la pression, si j'ose dire, sur nos dirigeants, notamment pour les missiles Taurus, et cela concerne notamment mon propre gouvernement. Merci. Merci, Tonino Pizzula, pour SED.
Merci. Welcome to FSS, Secretary General.
Monsieur le secrétaire général, bienvenue à la fête. Je suis très heureux de vous voir parmi nous, car le timing tombe à point nommé, malheureusement, si j'ose dire. Merci pour votre propos liminaire. Et par ailleurs, j'aimerais vous demander des informations supplémentaires sur les questions suivantes. Comme mes collègues l'ont dit précédemment, l'Union européenne est fermement engagée en faveur du renforcement de son industrie de la défense et dans le cadre d'actes d'approvisionnement, notamment avec les règlements EDERPA et ESAP récents. Comment est-ce que l'OTAN compte s'engager dans des projets similaires et si elle compte le faire, comment garantir l'interopérabilité et avec des dépenses plus efficaces et plus intelligentes en concertation avec l'Union européenne? Autre aspect, et je serais curieux de vous entendre sur ce sujet, quels sont les défis immédiats auxquels l'OTAN est confrontée dans la mer Noire dans le contexte de l'agression russe de l'Ukraine, de la guerre russe en Ukraine? Et autre élément sur lequel j'aimerais obtenir vos lumières, pouvez-vous nous donner plus d'informations en ce qui concerne la collaboration avec nos partenaires asiatiques, notamment le Japon et la Corée du Sud, face à une attitude toujours plus agressive de la Chine, et cela vaut également pour la Corée du Nord. Merci beaucoup pour Renew Europe. Ostravicius.
Thank you, Nathalie.
Merci beaucoup, Nathalie. Monsieur le secrétaire général, vous êtes le bienvenu. C'est toujours un plaisir d'avoir un débat sincère avec vous. Effectivement, nous faisons face à une situation sécuritaire complètement inédite. Et nous avons un certain nombre de missiles russes qui sont susceptibles de toucher le territoire de l'OTAN. Et c'est quelque chose qui doit vraiment retenir notre attention. Et il faut donc prendre les décisions qui s'imposent face à cette réalité. Quels sont les enseignements à tirer de la guerre russe en Ukraine, ou quels enseignements tirer plutôt du front ukrainien? Donc quels enseignements tirer de la situation actuelle? Nous voyons que le niveau d'utilisation des drones diffère. Est-ce qu'on tire les bons enseignements? Est-ce qu'on prend en considération la situation qui s'impose pour les petits objets volants? Il y a également la question de l'argent, plutôt des mines. Nous avons différentes mines qui sont présentes et qui sont déployées. Et c'est quelque chose qui a surpris les experts. Et donc les Ukrainiens ont complètement raison lorsqu'ils disent que nous, plutôt qu'eux, sont aux prises à une sorte de guerre hybride à mi-chemin entre la Seconde Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale. Troisième point, Monsieur le Secrétaire général, les menaces hybrides qui nous viennent des formations de milices soi-disant privées, qui sont plutôt soutenues par l'État, qui n'ont de privé que le nom. Mais là, on a tendance à être dans le déni et à ne pas vouloir reconnaître officiellement l'existence de ces milices. Donc, quelles mesures prendre pour mieux s'y opposer? Merci. Merci. Pour SED encore, coordinateur SED, Sven Mitsa.
Yes, thank you very much, Secretary General.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, d'être parmi nous. Une question Alors, pourriez-vous élaborer sur deux points à l'issue du communiqué final du sommet de Vilnius, et vous l'avez évoqué brièvement. Il y a l'engagement qui avait été pris initialement en 2014 pour la dépense, pour augmenter les dépenses militaires, mais on a encore des efforts à consentir. Et donc, que faire ? Et autre question qui concerne le niveau de disponibilité de ces troupes à haut niveau de préparation. Là, il y a différentes structures qui ont vu le jour à l'issue du communiqué du sommet de Madrid et à l'issue du communiqué du sommet de Vilnius. Quels progrès sont consentis en ce qui concerne la mise en œuvre ? Est-ce que cet ensemble de troupes, ce pool, est-ce qu'elle verra le jour d'ici la fin de l'année ? Vous avez évoqué le chiffre de 300 000 soldats. Merci beaucoup pour ECR. Wachikowski.
Thank you, Nathalie.
Merci beaucoup, Nathalie. Je suis ici. Monsieur le secrétaire général, tout d'abord, félicitations pour le renouvellement de votre mandat. Nous saluons vos services rendus en votre qualité de secrétaire général de l'OTAN. J'aurai quelques remarques de nature critique, mais je vous demande de ne pas les prendre personnellement. Vilnius a été un bon sommet, mais pas aussi bon que le sommet de Varsovie pour le flanc oriental. Là, la sécurité de ce flanc n'est pas renforcée par la présence de renforts de troupes de l'OTAN. Nous, on souhaitait que des bataillons de l'OTAN, que des troupes soient transformées en brigades. Or, rien ne s'est passé. Deuxièmement, nous avons maintenant des plans plus détaillés, mais qui va gérer ces plans ? Qui va assurer le commandement des défenses sur le flanc oriental ? Là, il n'y a pas de commandement régional de l'OTAN pour défendre ce flanc oriental. Donc, quels sont les avantages pour ce flanc oriental, qui est long de 250 km, plutôt qu'il est à 250 km de distance de la frontière russe et qui se trouve à 500 km des forces qui sont stationnées dans la partie orientale de l'UE et qui aurait peut-être du mal à défendre ce flanc oriental. Merci. Merci pour la gauche, Mick Wallace. Merci beaucoup, Nathalie. Monsieur Stoltenberg, l'OTAN identifie la Chine en tant que menace. Elle a dit sans embâge, le communiqué dit que la Chine essaie de saper l'ordre international fondé sur les règles et critique la Chine pour son opacité au niveau de sa stratégie et de ses intentions. Ma première question est la suivante. Il s'agit là d'un ordre qui n'a pas de base constitutionnelle ou qui ne se fonde pas sur le droit international. Comment expliquer que l'OTAN ait violé à multiples reprises l'ordre international sans conséquences en Irak, en Libye, j'en passe et des meilleurs ? Cela fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de bombardement de l'OTAN. Or, les alliés américains, eux, s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont déplacé des millions de personnes, tué des milliers de personnes. Et à présent, des dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, font l'objet de d'exécution arbitraire car ils ont le malheur de résider dans le mauvais pays. Et il faudrait revenir à la diplomatie et à l'ordre international comme la Chine a demandé aux États-Unis de le faire. En juillet, l'OTAN a appelé la Chine à se montrer plus constructive en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et l'a appelé à s'abstenir de soutenir l'effort de guerre sous quelque forme que ce soit. La réalité, c'est que la Chine a joué un rôle constructif en tant que médiateur potentiel pour la paix. C'est l'OTAN, les États-Unis et l'UE qui ont mis à mal les plans de paix. Ces plans ont été tournés en ridicule par les États-Unis. La crédibilité de la Chine a été attaquée. Or, pour être constructif, il faut être crédible. La Chine est restée neutre, n'a pas imposé de sanctions, continue de faire commerce avec la Russie et la Chine et a dit clairement qu'elle ne fournirait des armes à aucun camp dans ce conflit. Or, l'UE, elle, a imposé des sanctions massives, mais continue également d'être l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie. Donc là, je me demande, M. Stoltenberg, qui est crédible. Je donne à présent la parole à Anthony Lopez, Isoris-White, qui est rapporteur de la FAT pour l'OTAN, pour 2 minutes.
Merci beaucoup. Thank you, Mr. Secretary General.
Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Bien entendu, vous n'aviez que 10 minutes pour vos propos liminaires, mais je tiens à vous dire que je partage pleinement les priorités que vous avez exposées. Cela dit, j'ai une marotte, et c'est celle de certains de mes collègues. J'aimerais que vous nous parliez davantage de stratégie. Je pense que nous entendons beaucoup de choses inquiétantes. Nous avons 8 coups d'État en Afrique. On nous a virés, je l'exprime dans des termes aussi diplomatiques que possible, d'un certain nombre de pays. Mais j'aimerais savoir quelles sont maintenant les priorités. Alors, je viens d'Espagne et vous le savez, nous ne versons que 1,26% de notre PIB à l'OTAN. Est-ce que nous devrions améliorer ce chiffre? Je crois que c'est important d'avoir votre point de vue sur la question. Et enfin, cette semaine, nous avons appris que d'autres forces armées sont présentes en Russie, prêtes à agir contre l'Ukraine. L'armée cubaine, bon, n'est peut-être pas très efficace, mais le renseignement cubain, lui, l'est. Donc pour nous, c'est particulièrement inquiétant d'entendre et de savoir qu'ils sont présents sur le territoire russe. Avez-vous des informations à ce sujet? Merci. Merci. Nous avons toute une série de demandes de parole afin que vous puissiez tous poser vos questions, mais surtout afin que le secrétaire général soit en mesure de vous répondre, je vous demanderai de bien vouloir limiter vos interventions à 1 minute 30, en commençant par Madame Zovko. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Je poserai une question qu'on a peut-être oubliée. Un journaliste a rédigé un livre après son passage en Bosnie-Herzégovine. Vous nous dites que vous allez lever toute une série d'exigences à l'adhésion. Nous avons posé beaucoup de questions. Nous avons connu des situations de crise majeures. Alors que certains appellent tout le monde musulman à s'allier pour lutter contre l'impérialisme américain. Donc je pense qu'il est important de mener une diplomatie de la prévention dans cette région pour éviter que cette région ne redevienne une poudrière. Merci beaucoup. Merci, merci de votre concision. Madame Yontcheva.
Thank you, Mr. Stoltenberg.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Une question spécifique sur la mer Noire et les pays limitrophes. Cette région pourrait devenir une zone de conflit. La Roumanie, la Bulgarie pourraient être directement impliquées dans cette guerre. Pouvez-vous formuler un commentaire sur une telle évolution de la situation? Par ailleurs, le traité pourrait être amendé très bientôt. Et comment comptez-vous accroître la présence de l'OTAN en mer Noire si on devait connaître une escalade de la guerre? Nous avons besoin d'une stratégie pour la mer Noire. Et si la situation venait à se détériorer, la guerre pourrait complètement envahir cette région. Madame Che, pour Renew, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Et merci beaucoup de cette discussion franche avec vous aujourd'hui. Nous serons très heureux d'accueillir la Suède au sein de l'Alliance. C'est ce que nous appelons nos voeux avec mon parti en Hongrie depuis de nombreuses années. J'aurai plusieurs questions pour vous. Vous le savez, ici au Parlement européen, les commissions AFET et Droit travaillent avec l'Ukraine pour essayer de découvrir des preuves de crimes contre l'humanité commis par les Russes contre la population ukrainienne et notamment les mineurs. L'objectif étant de porter toutes les personnes qui s'en rendent responsables devant la justice. En ce qui concerne ces crimes contre des civils, avez-vous des informations ? Comment notre communauté pourrait accroître la capacité des Ukrainiens à lutter contre ces exactions? Autre point d'inquiétude, la situation des centrales nucléaires dont les capacités s'amenuisent au fur et à mesure des jours. Quel est le niveau actuel de menace? Et si le front devait se déplacer sur la Dniepre, est-ce que vous avez déjà prévu différents scénarios, notamment dans un environnement dangereux pour la région d'Europe centrale et orientale? Merci beaucoup. Monsieur Tertsch pour le CR. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de votre exposé fort intéressant. J'aurai deux questions très brèves. La première sur la Turquie. Ce membre de l'OTAN joue un rôle tout à fait particulier dans cette crise. Un certain nombre d'entre nous se demandent ce qu'il en est de ce lien particulier avec Moscou. Ou des liens qui unissent Erdogan et Poutine, qui semblent échapper à la ligne commune de la politique de l'OTAN. Mon collègue, M. López Istúriz, a parlé de la présence des forces cubaines en Russie. Nous savons que maintenant, nous avons des soldats cubains sur les lignes de front. Et nous nous demandons combien de temps il faudra attendre avant que d'autres régions d'Amérique latine rejoignent le front, des Vénézuéliens par exemple. Ne serait-il donc pas nécessaire que l'OTAN prenne un peu de recul et regarde ce qu'il se passe dans le cadre de nos politiques avec l'Amérique latine, notamment Cuba, par exemple.
Can you please switch off your microphone?
Sure.
Thank you. Next is Claire Daly.
Madame Daly. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Stoltenberg, vous nous demandez de faire le point sur la situation aujourd'hui par rapport au moment de l'invasion. Je ne sais pas ce que vous entendez par « nous, on ». Alors peut-être que vous faites partie de l'OTAN, c'est peut-être oui, avec l'élargissement à la Suède et la Finlande. Mais vous avez également expliqué à Vilnius que les Ukrainiens n'avaient peut-être pas reçu tout ce qu'ils souhaitaient. Le silence de Zelensky avait été acheté. Mais finalement, est-ce que vous n'avez pas abandonné l'Ukraine alors qu'elle attendait d'adhérer? Il semblerait que votre rhétorique ne se reflète pas dans les faits. Vous nous dites que l'Ukraine gagne du terrain, mais ce n'est pas vrai. depuis votre dernière apparition devant nous, l'Ukraine a reculé, 500 000 soldats sont morts, il a fallu opérer une mobilisation, y compris de personnes handicapées, de personnes présentant des handicaps mentaux. Et ces personnes ont été forcées à mener une guerre d'attrition sanglante. Le personnel militaire américain figure aujourd'hui maintenant dans le Washington Post en faisant écho aux propos du général Milley du mois de novembre dernier qui demande une véritable paix. Si l'Ukraine compte réellement pour vous, quel est votre plan de paix pour sauver les vies des Ukrainiens? Merci beaucoup, Monsieur Castaldo. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez souligné, des documents ont récemment été publiés, pour notre part la boussole stratégique, mais nous avons peut-être été dépassés par les événements en Ukraine, mais tout cela reste particulièrement pertinent, y compris avec le concept stratégique de l'OTAN. Nous voulons coordonner et travailler de façon complémentaire, mais j'aurais une question. Quelles sont les synergies, les nouvelles opportunités que vous envisagez pour accroître et améliorer encore davantage notre partenariat? Je pense tout particulièrement au fonds d'innovation de l'OTAN ou le programme Diana qui devrait nous permettre de créer des synergies alors que l'Union européenne tente de renforcer la base industrielle de la défense et développer notre autonomie stratégique, notamment par le biais de le fonds pour la défense européenne et par le biais d'autres initiatives. Existe-t-il des plateformes de coordination prévues pour accompagner ces efforts? Ensuite, comment pouvons-nous nous assurer qu'une meilleure interopérabilité au niveau européen s'aligne sur les efforts d'interopérabilité au sein de l'OTAN? Et je voulais vous poser une autre question. Seriez-vous favorable à davantage de coordination au sein de l'OTAN entre les pays qui sont également des États membres de l'Union européenne dans la mesure où il y a aujourd'hui un quasi-chevauchement complet? Par ailleurs, on a vu des mouvements majeurs de troupes, d'équipements militaires de l'Azerbaïdjan vers la frontière arménienne. Une nouvelle guerre d'agression d'un régime autoritaire contre une démocratie dans la région du Haut-Karabakh, mais également dans la région du sud de l'Arménie. Nous avons vu qu'il y avait des équipements de pays de l'OTAN dans l'Azerbaïdjan. Que pensez-vous de ce risque d'escalade? Merci beaucoup. Monsieur Lega.
Thank you so much, Chair.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Je commencerai simplement en vous disant qu'en tant que Suédois, je suis extrêmement reconnaissant de tout le travail que vous avez mené pour faire en sorte que la Suède rejoigne la famille de l'OTAN. Beaucoup de questions vous ont été posées aujourd'hui, notamment sur le front oriental, le front méridional, mais je voulais vous parler d'un autre front. On voit une augmentation de la tension entre la Chine et les États-Unis, mais également de menaces vis-à-vis de Taïwan. Que pensez-vous que doit être le rôle de l'OTAN en la matière ? Et je voulais également vous parler de l'intelligence artificielle. Quel pourra être le rôle de l'IA et comment pouvons-nous lutter activement contre des abus de l'IA? Merci beaucoup. Monsieur Köster. Je m'exprimerai en allemand si vous le permettez. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup de votre exposé. Je voudrais vous poser deux questions. D'abord, sur les sous-munitions. La plupart des attaques qui utilisent des sous-munitions semblent être russes, mais il semblerait que les Ukrainiens commencent à les utiliser après des livraisons américaines. Par ailleurs, la majorité des morts en Ukraine sont des personnes civiles. Nous avons une convention sur l'interdiction des sous-munitions. Nous avions été parmi les premiers à signer cette convention et j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui il y a un tel renversement de la situation. J'aimerais également que vous nous donniez votre impression sur la contre-offensive ukrainienne. Les résultats n'ont pas été escomptés, n'ont pas été obtenus. Quels sont les risques d'escalade? Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre embrase toute l'Europe et que pouvons-nous faire pour éviter cette situation? Merci beaucoup. Monsieur Nart pour Renew.
Hablaré en espagnol.
Je m'exprime en espagnol. Je souhaite que l'Ukraine récupère tout son territoire, y compris la Crimée. J'espère que l'Ukraine fera partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Bon, bien sûr, ça c'est ce que je souhaite. Et ensuite, il y a la réalité. La réalité, si elle appartient à l'OTAN, on devra alors déclarer la guerre à la Russie, parce que nous devrons défendre un pays qui a été envahi. Donc, pour le moment, il est impossible que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, en tout cas jusqu'à la fin de la guerre. L'offensive de Koursk en 1943 nous a bien montré que il n'a pas été possible de pénétrer des forces sur près de 40 km de profondeur tout au long du corridor de Koursk. Même s'il y avait une véritable supériorité aérienne. Et je l'ai dit à l'époque, l'Ukraine ne pouvait pas avancer. Pourtant, on avait annoncé que ce serait le cas. Il reste maintenant à peu près un mois pour avancer vers Mariupol. Mais pour cela, il va falloir passer des forces de défense qu'ils ont été incapables de percer jusqu'à présent. Donc ma question est la suivante. Est-ce que nous allons devoir faire face à un conflit gelé? Et quelle sera alors la politique de l'OTAN face à un conflit, je le répète, un conflit gelé? Et ce sera la réalité de ce que l'on connaîtra en Ukraine. Merci beaucoup. Monsieur Gyöngyösi.
Thank you very much, Madam Chair.
Merci beaucoup, Monsieur Stoltenberg. Nous vous remercions d'avoir indiqué dans votre introduction l'automne 2021. Et le projet d'accord entre l'OTAN, les États-Unis et la Russie, qui n'a pas été accepté, mais qui montrait très clairement quelles étaient les intentions de M. Poutine. Je crois que lorsqu'on parle de cette guerre, nous devons repartir de là, des intentions de la Russie. Nous savons quels sont les objectifs de Poutine. L'Ukraine, ce n'est qu'une première étape dans cette stratégie. Toutes ces personnes, les premiers ministres qui, au sein de l'Alliance, nous disent qu'ils peuvent accepter les conditions de paix formulées par Poutine, on doit leur rappeler ce que Poutine avait dit aux États-Unis et à l'OTAN. Il voulait simplement réanimer, redonner vie à la doctrine de Brejnev. Et certains d'entre eux ne connaissent peut-être pas cette doctrine, mais ce que Poutine a dit à l'OTAN et aux États-Unis, c'est exactement cela. Quand on parle de la guerre en Ukraine, il faut alors parler de ce projet d'accord et il faut rappeler tous ceux qui, au sein de l'Alliance, reprennent le récit de Poutine, leur expliquer qu'ils ont tort et qu'ils doivent rejoindre le camp de l'Ukraine. Ma question, monsieur le secrétaire général, est la suivante. Est-ce que l'OTAN dispose des instruments nécessaires pour lutter contre ces chevaux de Troie, c'est ceux qui veulent affaiblir l'alliance de l'intérieur en répétant le récit de Poutine? L'OTAN est née après la Seconde Guerre mondiale. L'OTAN a été créée pour faire face à des situations traditionnelles de guerre telles que la guerre froide, mais nous n'étions pas prêts à faire face à des attaques hybrides contre l'alliance depuis l'intérieur. Merci beaucoup. Monsieur Miladmon.
Gracias, presidente.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je m'exprime en espagnol pour vous remercier, Monsieur le Secrétaire Général, et vous remercier de votre introduction. On a beaucoup parlé de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais je voudrais peut-être braquer les projecteurs sur le Sahel maintenant. Dans le communiqué de Vilnius, au paragraphe 22, vous parlez du Sahel, mais c'est ensuite simplement que le coup d'État est arrivé au Niger. Et cela fait suite à un coup d'État en Mauritanie. J'aimerais savoir quelle est votre position sur le Sahel. Que pensez-vous également du rapprochement des BRICS avec des pays que l'on a considérés comme autocratiques, comme par exemple l'Iran ou l'Arabie Saoudite? J'aimerais savoir quel est votre point de vue sur la question. Merci.
Thank you. Next.
Merci. Nous avons désormais 10 Reuten.
There it is. Thank you, Chair.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je veux dire que parfois, lorsque je me sens mal, je regarde la vidéo de dernière visite ici, car cela m'encourage à rester concentré, déterminé. Ma première question a trait à l'Ukraine. Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner, plutôt que seulement lui donner ce dont elle a besoin pour ne pas perdre. Donc, nous avons dit qu'il fallait livrer des avions de combat pour que l'Ukraine puisse défendre son espace aérien, et nous avons hésité. Et désormais, nous savons qu'ils ont besoin de ces ATACMS, ces systèmes de défense aérienne à longue distance. Il faut pouvoir défendre le territoire ukrainien, car les Russes frappent tout, hôpitaux, écoles, etc. Nous sommes en train de parler avec les fabricants de ces systèmes de défense pour limiter leur portée. Pouvez-vous expliquer cela? Ma deuxième question a trait à ce qu'a dit mon collègue. Certains États membres font écho au narratif de la Russie. Il y a d'autres États membres, d'autres États qui ne sont pas membres, dont la Serbie, qui entretiennent des relations très étroites avec la Russie, avec des visites de haut niveau quasiment hebdomadaires. Est-ce que vous pourriez vous exprimer à ce propos? Vous avez rencontré le président Vučić. Lui avez-vous dit, sans équivoque, qu'il était absolument inacceptable de perpétrer des violences à l'encontre du personnel de l'OTAN? Merci. Vlad Georg, pour Renew Europe. Merci. Alors j'ai une question très spécifique sur un sujet très spécifique. Un drone russe, au moins un drone russe, a explosé au-dessus du territoire roumain il y a 2 jours. Un État membre de l'OTAN. Alors, les Ukrainiens nous ont dit il y a 3 jours que cela s'est produit, mais les autorités roumaines n'ont pas trouvé le drone, ou du moins n'ont pas admis l'avoir trouvé avant hier. Les autorités roumaines ont-elles dit à l'OTAN qu'il n'y avait en effet pas eu d'explosion de drones au-dessus du territoire, ou leur ont-elles dit qu'ils avaient trouvé le drone après l'explosion? Et enfin, que fait l'OTAN pour défendre cette frontière de l'OTAN? Il y a beaucoup de citoyens qui vivent à la frontière et les Russes attaquent quasiment quotidiennement sur cette portion du Danube. Alors, que peut-on faire pour que les drones russes n'explosent pas au-dessus de notre territoire? Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci. Alexandre Yordanov.
Thank you. I will.
Merci. Je vais parler bulgare.
Господин Столтенберг, благодаря.
Monsieur Stoltenberg, je souhaite vous remercier d'avoir participé à une nouvelle réunion de notre commission et vous remercier de répondre à nos questions. Alors, j'ai 2 questions. Ma première question a trait à ce qu'a dit la Russie à propos de la création d'une nouvelle zone sécuritaire sur le territoire de la mer Noire. La Russie qualifie cette zone de zone d'alerte. Et cette zone empiète sur la zone économique exclusive de la Bulgarie. Donc c'est une menace qui pèse sur la Bulgarie, mais également sur toute la région. Quelles ont été les mesures prises pour déjouer l'agression russe dans cette région? Et plus spécifiquement, quel est le rôle de la Bulgarie au sein de cette mesure? Puis il y a une autre question qui a déjà été évoquée par plusieurs autres collègues. C'est la première guerre qui touche l'Europe au XXIe siècle. Et il n'y a qu'une seule nation qui en paye le prix, l'Ukraine. La Russie n'est pas touchée par les atrocités qu'elle commet sur le territoire ukrainien. J'aimerais savoir quand la Russie, finalement, va payer le prix de la guerre qu'elle a déclenchée. Quand est-ce que les missiles ukrainiens se tourneront enfin vers la Russie? Merci.
Yes, next.
Merci. Nikos Papandreou. Merci, Monsieur Stoltenberg, pour votre présence. Vous avez une tâche très difficile et c'est celle de répondre à toutes ces questions. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir ce panel de questions, qu'ils aient du soutien apporté ou ceux qui souhaitent voir la guerre se terminer. Il y a de nombreux citoyens qui meurent et il faut que cette guerre prenne fin. Alors, moi, je ne pensais pas au cours de ma vie que j'allais appuyer la livraison d'armes ou appuyer la tenue d'une guerre. Alors, j'aimerais que la Suède puisse préserver son niveau de gouvernance et de démocratie lorsqu'elle rejoindra l'OTAN. Et j'espère que les efforts de la Turquie pour saper la position suédoise ne porteront pas leurs fruits, car la Grèce est d'ailleurs jalouse de la très belle démocratie suédoise. J'espère que vous pourrez faire en sorte que la Turquie demeure un État membre de l'OTAN adéquat, tel que nous l'espérons. Puis nous avons enfin Roger Skersos pour Rignot. Merci. Je veux remercier le secrétaire général pour sa présentation et pour son travail excellent. Bon. Peut-être qu'il ne devrait pas devenir président de d'une banque centrale, qu'il devrait plutôt rester à l'OTAN. Alors, à propos de la performance économique de la Russie, j'ai le sentiment que l'économie russe est plus résiliente qu'escomptée. Elle a pu tourner son économie vers l'Inde, la Chine et l'Asie au sens large. La Russie produit davantage d'armes grâce au soutien d'autres pays, notamment l'Iran. La Russie a également de bons accords avec l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEC+. Grâce à ces efforts, ils peuvent faire monter le prix du baril. Et leur PIB va augmenter de 4 à 5% en 2023. Cela signifie pas qu'ils n'ont aucun problème, mais cela signifie, selon moi, qu'ils pourront continuer à financer cette guerre agressive dans les années à venir. Partagez-vous cette évaluation de la situation? Merci.
Thank you, colleagues. Alors...
Merci, chers collègues. Alors, des questions très diversifiées, très précises. Monsieur le secrétaire général, je suis certain que grâce à vous, nous aurons des réponses très précises. Vous avez 10 minutes. Merci. Alors, je vais tenter de répondre à autant de questions que possible et à évoquer de nombreux sujets. Mais il y a tant de réponses à apporter que je ne pourrais pas, évidemment, répondre individuellement à toutes questions. Donc, je vais les regrouper. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier d'avoir posé ces questions, d'avoir témoigné de l'intérêt. Cette audition témoigne de la valeur de notre coopération, car la plupart des sujets qui ont été évoqués, eh bien, ont directement trait aux efforts que doivent fournir nos deux institutions pour surmonter nos défis. Vous avez évidemment parlé de l'Ukraine et de ce que nous pouvons faire pour ce pays. Bien, dans un premier temps, je veux vous dire que nous coordonnons nos efforts au niveau politique, mais à un niveau également très pragmatique. Il y a une cellule de coordination à Wiesbaden, et les alliés et les membres de l'UE se réunissent pour coordonner le soutien apporté à l'Ukraine. Ils cherchent à identifier les besoins de l'Ukraine, se rapprochent de différents pays et développent des paquets de soutien. Il faut bien comprendre que lorsque l'on fournit du soutien militaire, on ne livre pas seulement un mortier. On donne le mortier, mais on donne également les munitions, les pièces détachées, on dispense une formation et on fournit également un dispositif d'entretien du mortier. Alors, quelle est la priorité? On m'a posé cette question. Eh bien, la priorité principale, c'est de faire en sorte que tous les systèmes envoyés à l'Ukraine fonctionnent. Les besoins en munitions, en entretien, en pièces détachées sont énormes. Tout cela est nécessaire pour que les systèmes livrés fonctionnent. Alors je ne dis pas que nous ne voulons pas livrer de nouveaux systèmes, nous allons livrer des F-16. Mais je pense que le débat public se concentre peut-être un peu trop sur les nouveaux systèmes plutôt que sur l'entretien des systèmes qui ont déjà été livrés. Il y a de la coordination. Je suis allé à Wiesbaden moi-même. C'est impressionnant de voir comment les États membres de l'UE et les alliés de l'OTAN collaborent au sein de cette cellule de coordination. Et je peux vous assurer que nous continuerons à œuvrer en la matière. La normalisation et l'approvisionnement. Je vais évoquer ces sujets. L'UE fait de nombreuses choses en la matière. L'OTAN a également des programmes qui ont trait à cela. L'été dernier, nous avons constaté que ça allait être une guerre d'attrition. La production devient donc essentielle. Dans un premier temps, nous avons vidé nos stocks pour approvisionner l'Ukraine. Mais nos stocks ne sont pas suffisants. Nous avons dû augmenter notre production. Mais la réalité, c'est que notre capacité de production n'est pas suffisamment bonne. Bon, il y a du progrès, il y a de nouveaux investissements pour ce qui est des États membres de l'OTAN et des États membres de l'OTAN. Bon, il y a de l'approvisionnement commun depuis des années dans le cadre de cette coopération. Et il y a même des alliés non-UE qui participent à cet approvisionnement commun. Le plus important, ce n'est pas le cadre de renforcement de la production ou de la livraison de munitions. Le plus important, c'est de le faire au sein de l'UE, au sein de l'OTAN, au sein d'États qui partagent les mêmes valeurs ou avec des alliés individuellement. Le plus important, c'est de signer des contrats. Il faut que les nations signent des contrats car cela permet au secteur industriel d'investir et d'augmenter la production. La normalisation, c'est essentiel. C'est vraiment une priorité de l'OTAN et nous avons déployé de nombreux efforts pour renforcer cette normalisation qui est toujours lacunaire, je dois le dire. Vous savez que 8% des dépenses militaires de l'OTAN viennent de pays non membres de l'UE. Donc je pense qu'il faut de toute façon renforcer les efforts de l'UE en matière de normalisation. Pour ce qui est de la contre-offensive ukrainienne et le terrain gagné par l'Ukraine ou perdu par l'Ukraine. Personne n'a jamais dit que cette contre-offensive serait un jeu d'enfant. Tout le monde a dit que ce serait une contre-offensive sanglante, longue et difficile. Les Russes ont préparé différentes strates défensives avec des tranchées, des obstacles au franchissement, différentes défenses, notamment des mines ou ce que l'on appelle des dents de dragon, des mines en nombre incommensurable. Je crois que nous n'avons jamais vu autant de mines sur un champ de bataille que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. Donc évidemment, cela allait être difficile. Mais l'Ukraine a néanmoins décidé de lancer cette contre-offensive, car ils vont libérer leur pays et ils font du progrès. Peut-être pas autant que nous l'espérions, mais ils gagnent du terrain progressivement. Centaines de mètres par jour. Lorsque les Ukrainiens gagnent du terrain, les Russes en perdent. Et il faut se rappeler le point de départ. Le point de départ, c'est que l'armée russe était la deuxième armée la plus puissante du monde, et désormais la deuxième armée la plus puissante d'Ukraine. Et ça, c'est vraiment... un résultat du courage des Ukrainiens. Je veux vous rappeler un autre point de départ. Lorsque l'invasion a été déclenchée au mois de février, la plupart des experts nous ont dit alors que Kiev tomberait en quelques jours et l'Ukraine serait prise dans son intégralité en quelques semaines. Les Ukrainiens ont damé le pion aux envahisseurs russes, ont réussi à libérer la région autour de Kiev, puis à l'est autour de Kharkiv, et ensuite au sud autour de Kherson. Et désormais, ils arrivent à libérer davantage de territoires ukrainiens. Aujourd'hui, les mêmes experts qui nous disaient que l'Ukraine tomberait en quelques semaines se plaignent de la vitesse de la contre-offensive. La réalité, c'est que les Ukrainiens dépassent à nouveau nos attentes, jour après jour. Et notre responsabilité est de les soutenir. Nous pouvons les conseiller également, mais il faut évidemment que ce soit les généraux ukrainiens et les soldats ukrainiens qui prennent les décisions difficiles. Nous ne pouvons pas, ici, à l'UE ou à l'OTAN, leur dire comment se battre. C'est leur tâche, ils risquent leur vie, nous ne pouvons que les soutenir et saluer leur courage. Les guerres sont, par nature, imprévisibles. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait, à court ou à moyen terme. Évidemment, on souhaite la victoire à la partie que l'on soutient. Mais il y aura également des difficultés. Il faut soutenir l'Ukraine à tout moment. On ne peut pas les aider que s'ils gagnent. Il faut les soutenir, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Soutenir l'Ukraine n'est pas une option. C'est une nécessité. Soutenir l'Ukraine, c'est préserver la paix. Pour nos États membres, soutenir l'Ukraine, c'est également faire en sorte que les régimes autoritaires n'obtiennent pas gain de cause par le biais de l'usage de la force et en sapant le droit international. Évidemment, par moments, il est difficile d'imaginer à quel point cette guerre est brutale. Mais il ne faut jamais oublier notre responsabilité, celle de fournir un soutien à l'Ukraine. Puis il y avait une question quant aux drones. Les autorités roumaines ont informé l'OTAN de l'identification de débris d'un potentiel drone russe à la frontière avec l'Ukraine. Les autorités roumaines l'ont dit hier lors d'une réunion à l'OTAN. Ils ont fait part de leur constat. L'enquête est en cours. C'est un témoin du risque qui touche ces pays frontaliers. Il n'y a pas d'attaque intentionnelle ici de la Russie, mais nous attendons toutefois les résultats de l'enquête. Quels que soient les résultats de l'enquête, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y avait de nombreux combats et de nombreuses attaques aériennes à proximité des frontières de l'OTAN, car il y a eu d'autres incidents à la frontière de la Pologne notamment. Donc nous avons augmenté notre vigilance, nous suivons de près ce qui se produit à proximité de nos frontières et nous avons également renforcé notre présence sur le flanc est de l'Alliance.
Il y avait des questions qui portaient sur la mer Noire. La mer Noire revêt une grande importance aux yeux de l'OTAN. Nous condamnons le fait que la Russie se soit retirée de l'accord céréalier relatif à la mer Noire. Nous saluons les efforts déployés par la Turquie afin de rétablir cet accord céréalier. Et bien sûr, la meilleure façon de garantir un approvisionnement sûr des céréales en provenance de l'Ukraine, c'est de mettre fin à la guerre. Il y a perturbation en raison de la guerre et cet accord céréalier vise à tempérer certaines des conséquences de la guerre. J'aimerais également dire que nous avons renforcé notre présence dans la région. Nous l'avons fait depuis un certain temps, mais nous avons notamment renforcé cette présence depuis le début de la guerre avec une plus grande présence navale, avec des bataillons déployés en Roumanie, en Bulgarie, et nous suivons avec la plus grande attention l'évolution de la situation dans la région des pays limitrophes de la mer Noire. On parlait également des différences entre les sommets de Vilnius et de Varsovie. Je ne veux pas comparer deux sommets qui ont été tous deux couronnés de succès. Mais il y avait effectivement une différence. Effectivement, à Varsovie, nous avons décidé de déployer certains bataillons. Avant Vilnius, ce que nous avons décidé de faire, le matin même de l'invasion, nous avons activer les plans de défense de l'OTAN et ainsi autorité a été donnée de déployer des troupes là où c'était jugé nécessaire. Donc il y a eu un renforcement de la présence de troupes de bataillons, multiplication du nombre de bataillons par deux, jusqu'à passer de 4 à 8 et il y a des forces aériennes et navales en présence. Nous allons défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Cela passe par une présence renforcée, mais cela passe également par des renforts. Et c'est pour cela que ces troupes à haut niveau de préparation nous permettront de répondre à ce qui pourrait se produire. Le Sud attire également votre attention. Le Sud également revêt une très grande importance aux yeux de l'OTAN. L'instabilité dans le nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, se traduit par des défis pour l'ensemble des alliés. Nous avons une présence en Irak. Il y a des troupes qui sont formées, équipées afin de lutter contre le terrorisme. Nous travaillons avec la Mauritanie et la Tunisie afin qu'ils luttent également contre le terrorisme sur leur territoire. Il en va de même pour la Jordanie. La Jordanie est également un partenaire très proche de l'OTAN. Mais là, ce sont des efforts diplomatiques et économiques qui sont en jeu. D'autres acteurs que l'OTAN sont appelés là à jouer un rôle. Et là, l'Union européenne, bien sûr, doit pleinement faire sa part. La Chine. La Chine, à nos yeux, n'est pas un adversaire. Mais nous sommes inquiets des défis que la Chine représente pour nos valeurs, nos intérêts et notre sécurité. La Chine ne partage pas nos valeurs. La Chine ne croit pas en la liberté d'expression, ne croit pas en les valeurs démocratiques et la Chine le dit sans détour. La répression des journalistes, de l'opposition, des opposants le montre bien aux quatre coins du pays. On voit qu'il y a également répression des mouvements pro-démocratie en Hong Kong, à Hong Kong. On voit qu'il y a des tensions également à Taïwan. Et on voit que la Chine investit lourdement au sein d'armes nucléaires plus modernes et à destination de missiles de longue portée. Et la Chine a renforcé sa coopération avec la Russie avant l'invasion de l'Ukraine. La Chine et la Russie ont signé un accord pour se promettre mutuellement un partenariat illimité et la Chine n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Donc, je pense que ce dont il faut se rendre compte ici, c'est que la sécurité n'est pas régionale, la sécurité est mondiale. Ce qui se passe en Ukraine est important pour l'Asie, et ce qui se passe en Asie est important à nos yeux. C'est pour cela que nous saluons le partenariat renforcé que nous avons avec les pays de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud. Et nous sommes prêts à en faire encore plus, à faire tout notre possible pour travailler en étroite collaboration avec ces pays. D'autres questions portaient sur les dépenses militaires. Bien sûr, j'aimerais que tous les alliés respectent le critère de 2%, mais ce n'est pas le cas. Mais je suis optimiste au regard de ce qui se fait actuellement. Les alliés ont renforcé leurs dépenses militaires. Tous les alliés ont augmenté leurs dépenses militaires. En 2014, lorsque nous avons conclu l'accord, seuls 3 alliés respectaient ce critère de 2%. Maintenant, 11 respectent ce seuil de 2%. Et tous les alliés ont mis en place des plans afin d'atteindre cet objectif sous 2 ans. Certains vont même plus loin. L'Allemagne, par exemple, a augmenté de façon significative la part de son budget allouée aux dépenses militaires. Donc je vois que des progrès sont consentis et je tenais à le saluer. Comme le temps qui m'était parti est presque épuisé, je souhaitais vous parler du paradoxe des armes. Car le délégué grec a dit que il n'aurait jamais cru un jour soutenir la livraison d'armes à destination de l'Ukraine. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un paradoxe. Car tout le monde veut la paix. On souhaiterait tous allouer des fonds à autre chose que le déploiement d'armes. Mais le problème, c'est que parfois, il faut investir au sein d'armes pour garantir la paix. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est une leçon que nous apprenons encore et encore. Et je me souviens très bien de la fin de la guerre froide. Nous avons tous pu réduire nos dépenses militaires. Je me souviens que c'était 3% du PIB de mon pays à la fin de la guerre froide. Et ensuite, c'est passé à peine 1%. Et j'ai pu chapeauter cette transition. Et j'ai été un responsable politique norvégien, donc je l'ai vu. Et d'autres nous ont emboîté le pas et ont réduit leurs dépenses militaires parce que les tensions se sont apaisées. Les menaces disparaissaient, on concluait de nouveaux partenariats, on pensait pouvoir travailler aux côtés de la Russie. Et moi, j'y croyais parce que, on l'a vu à maintes reprises dans l'histoire, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain. On l'a vu, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France se sont fait la guerre pendant des siècles et aujourd'hui ce sont des partenaires très proches et les pays nordiques. Alors nous, on se fait la guerre depuis l'ère des Vikings, et donc depuis des siècles. Et aujourd'hui, les Suédois, les Danois, les Finlandais, les Norvégiens s'entendent à merveille. Donc c'est possible. Je pense qu'il est possible de surmonter nos différends, comme vous l'avez fait en Europe dans le cadre de l'Union européenne. Et donc je pense qu'il est possible de surmonter nos difficultés avec la Russie. La Russie n'a pas choisi cette voie. La Russie a décidé de contrôler son voisinage. La Russie a essayé de rétablir son influence et a argué du fait qu'il y avait une provocation si un pays décidait de rejoindre l'OTAN. Ce n'est pas une provocation, c'est une décision souveraine qui appartient à tout pays. Donc il y a eu la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014 et cela a mené à une invasion à grande échelle en 2022. La Russie se détourne de nous, je le regrette, mais nous n'avons pas d'autre choix que de garantir la paix pour les alliés de l'OTAN, pour les membres de l'Union européenne en investissant au sein de la défense. Il s'agit donc de soutenir l'Ukraine. Car si le président Poutine remporte la guerre en Ukraine, ce sera une tragédie pour les Ukrainiens, mais ce sera également un danger pour nous. La Russie saura dès lors que lorsqu'elle recourt à la force, elle peut avoir gain de cause. Et donc, je suis très reconnaissant au titre de l'aide qui est dispensée à l'Ukraine. Merci. Monsieur le secrétaire général, au nom de Madame Loiseau, je vous remercie d'avoir bien voulu participé à cette réunion conjointe des commissions CD et AFET. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Ce n'est pas la première fois que vous êtes parmi nous et nous vous en sommes reconnaissants. Chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait soulever un point sous divers? Si tel n'est pas le cas, notre prochaine réunion se tiendra les 20 et 21 septembre prochains. Merci beaucoup pour votre participation.